Ce podcast abordera les pouvoirs maçonniques de l'architecture de l'Égypte ancienne. Ce podcast comprend 5 sujets. Premier sujet : la symphonie maçonnique égyptienne. Les francs-maçons revendiquent le fait que leurs rites, connaissances et traditions sont ancrés en Égypte. Les francs-maçons sont membres d'une vaste société secrète et fraternelle appelée francs-maçons reconnus, plus connue sous le nom de franc-maçonnerie. Il y a une camaraderie et une sympathie instinctive et naturelle entre ses membres. Les francs-maçons modernes revendiquent leurs racines ancrées dans l'Égypte ancienne. Il est intéressant de noter que l'obélisque et la pyramide sont des formes symboliques importantes pour eux, bien avant que l'égyptologie et les égyptologues n'existent. Les pères fondateurs des États-Unis, dont beaucoup étaient francs-maçons, ont choisi de mettre une pyramide non américaine sur les billets du dollar et ont choisi la forme d'un obélisque pour rendre hommage à George Washington, qui était également franc-maçon. Hérodote, père de l'histoire et grec, affirmait en 500 avant notre ère : Je m'étendrai davantage sur ce qui concerne l'Égypte, parce qu'elle referme plus de merveilles que nul autre pays, et qu'il n'y a point de contrée où l'on voit tant d'ouvrages admirables et au-dessus de toute expression. Les monuments supérieurs d'Égypte ancienne sont les manifestations physiques de leur connaissance cosmique supérieure, car, comme affirmé dans Asclépios 3:25 des textes hermétiques, en Égypte, toutes les opérations des pouvoirs qui gouvernent et fonctionnent dans les cieux ont été transférées à la terre du dessous. Il doit être dit que tout le cosmos demeure en Égypte dans son sanctuaire. C'est pourquoi nous devons arrêter de considérer les monuments de l'Égypte ancienne comme une interaction de vagues formes de présentation historique et archéologique. Au lieu de cela, nous devons essayer de les voir comme un lieu de demeure du cosmos, de la relation entre la forme et la fonction. Goethe, 1749-1832, décrit l'architecture comme étant de la musique gelée. En Égypte ancienne, l'architecture était de la musique visuelle animée, définitivement non gelée. L'architecture et l'art égyptien suivaient les principes de la conception dynamique harmonieuse qui s'applique tant au son qu'à la forme. Le son et la forme sont les deux facettes de la même monnaie et leur relation est égale aux aspects métaphysiques et physiques de l'univers. La manifestation physique de l'univers est une œuvre d'art d'ordre, d'harmonie et de beauté. L'architecture de l'existence corporelle est déterminée par un monde invisible et immatériel de forme pure et de géométrie. Les anciens Égyptiens qui sont connus comme des faiseurs, c'est-à-dire des constructeurs, mettent leur connaissance et leur sagesse dans des travaux animés, énergétiques et productifs. La conception de l'architecture de l'Égypte ancienne était basée sur des proportions harmoniques. Les harmonies musicales sont de la même manière basées sur des proportions harmoniques. Il a été dit qu'en réalité, la musique est de la géométrie traduite en son, car les mêmes harmonies qui sous-tendent les proportions architecturales peuvent aussi être entendues dans la musique. Le célèbre Mozart était un franc-maçon, tout comme son père et beaucoup de notables de son époque. Sa musique était l'esprit du passé des traditions des Égyptiens anciens. Son accomplissement suprême a été l'opéra maçonnique, où le pouvoir de la maçonnerie devient le pouvoir de la musique utilisant des symboles maçonniques. Deuxième sujet : monument personnel ou générateur d'énergie. C'est une tendance commune d'ignorer les fonctions religieuses des temples d'Égypte ancienne. Nous devons essayer de le voir comme la relation entre la forme et la fonction. Au lieu de cela, ils sont vus par beaucoup comme seulement une galerie d'art ou une interface de forme contre une vague représentation historique. En réalité, les temples égyptiens sont le lien, le moyen proportionnel entre le macrocosme, le monde, et le microcosme, l'homme. Ils étaient une scène sur laquelle les rencontres entre les néterous, c'est-à-dire les dieux et les déesses, et le roi, un représentant du peuple, avaient lieu. Le temple égyptien était une machine pour générer et maintenir l'énergie divine pour le bénéfice du tout. C'était un endroit dans lequel l'énergie cosmique des Netheru demeurait et d'où ils irradiaient leurs énergies sur les terres et les gens. Le pouvoir harmonieux des plans des temples, les images gravées sur les murs et les formes de culte, tout conduisait au même but, un but spirituel, car il impliquait de mettre en mouvement des forces surhumaines et pratiques, car le résultat final attendu est le maintien de la prospérité du pays. Le choix de l'endroit et de la conception particulière d'un temple ne sont pas basés sur des considérations économiques, mais plutôt sur une connaissance plus profonde du macrocosme. Les temples égyptiens n'ont pas été construits rapidement ou par un seul roi. Ces temples ont été construits sur des siècles par des rois successifs. Un bon exemple est le grand complexe des grands temples de Karnak, qui ont été construits sur une période de plus de 1500 ans. Les temples de Karnak ont pour caractéristique 6 pylônes et sont une réalisation imposante et harmonieuse qui produit un plan harmonieux de bâtiments couvrant un périmètre d'environ 2300 mètres. Il est évident que le plan d'ensemble préexistait et qu'il était connu de ceux qui ont fait des additions sur une période de plus de 1500 ans. Troisième sujet. Architecture et géométrie sacrée. La conception harmonieuse de l'architecture de l'Égypte ancienne est obtenue grâce à l'unification de deux systèmes. L'un, arithmétique, nombre significatif le long d'un axe central. L'autre, graphique, rectangle, carré et quelques triangles. L'union de ces deux systèmes reflète la relation entre les différentes parties d'un tout, ce qui est l'essence même de la conception harmonieuse. Les points significatifs étaient déterminés le long d'un axe de conception. Ces points marquaient les intersections d'axes transverses, l'alignement de la porte centrale, la position d'un autel, le centre d'un sanctuaire, etc. Ces points significatifs suivaient une progression arithmétique précise. Dans nombre des meilleurs plans, ces points significatifs sont à des distances harmonieuses les uns des autres, et les distances des uns par rapport aux autres expriment les figures de la suite de Fibonacci. 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610. L'analyse harmonieuse montre des séries de points significatifs lisibles des deux fins, c'est-à-dire si inversés, un système de points significatifs peut aussi correspondre à une suite avec le point de référence commençant à l'autre fin du plan. La suite de Fibonacci était utilisée dans les monuments égyptiens depuis l'ancien royaume. La conception des temples pyramides de Khéphren, à Gizeh, atteint les 233 coudées de longueur totale, mesurées depuis la pyramide, avec une série complète de 10 points significatifs. Le temple de Karnak suit les chiffres de la suite de Fibonacci jusqu'à 610 coudées, c'est-à-dire 12 points significatifs. Voir diagramme de nombreux temples d'Égypte ancienne dans le livre intitulé « L'architecture métaphysique des anciens Égyptiens » ou son édition plus ancienne « Egyptian Harmony, The Visual Music », tous deux écrits par Mustapha Gadala. Quatrième sujet. Laisser l'énergie circuler. Pour maintenir l'unité du temple, ses composants doivent être connectés pour que l'énergie cosmique puisse circuler librement au travers de toutes ses parties. L'unité des composants du temple doivent être comme les composants du corps humain. Les murs d'un temple sont faits de blocs et d'angles, et ces composants doivent être connectés ensemble d'une manière qui permette la circulation de l'énergie divine, tout comme les parties de l'être humain. Il est incorrect de penser qu'une connexion entre deux composants a pour seul but d'assurer la stabilité structurelle des parties et du bâtiment complet. Nous pouvons tirer des indices du corps humain, le foyer de l'âme, quand nous regardons de plus près le temple égyptien, c'est-à-dire le foyer cosmique de l'âme, de l'énergie, Netheru. Le corps humain est connecté par des muscles, mais les veines et les nerfs ne sont pas interrompus aux articulations des os du squelette, le temple vivant de l'Égypte ancienne, était conçu de manière similaire. Des bas-reliefs de différentes tailles, tout comme des symboles hiéroglyphiques, couvrent parfaitement deux blocs adjacents. L'intention est très claire. Construire un pont entre deux blocs adjacents, l'un à côté de l'autre ou l'un sur l'autre. Les blocs eux-mêmes sont attachés ensemble dans une sorte de système nerveux, d'énergie. Un prolongement de la circulation d'énergie nécessite des motifs d'accrochage spéciaux. La pratique d'unir deux blocs ensemble avait cours dans chaque temple égyptien tout au long de l'histoire connue de l'Égypte ancienne. Pour plus d'informations sur le sujet, veuillez vous référer au livre intitulé « L'architecture métaphysique des anciens Égyptiens » ou son édition plus ancienne « Egyptian Harmony, The Visual Music », tous deux écrits par Mustapha Gadala. Cinquième sujet. Le pouvoir de la pyramide. On nous a appris à l'école que les pyramides n'étaient rien d'autre que des tombes construites par des pharaons tyrans et que les esclaves étaient utilisés lors de la construction des pyramides pour traîner des grosses pierres le long de rampes temporaires. Cette théorie est présentée sans aucune preuve. Quand on examine les faits, surtout quand on visite les pyramides, on trouve que ces croyances sur les pyramides sont tellement illogiques que l'on risque de douter de soi-même. Nous vous fournissons ici quelques informations sur le pouvoir de la pyramide. De nombreux chercheurs ont découvert qu'une caractéristique quelconque de la forme pyramidale était responsable de pouvoirs extraordinaires. Ils ont expérimenté avec différents objets en les plaçant dans une position équivalente à la chambre du roi au sein d'un modèle à taille réduite d'une pyramide correctement orientée. Ils ont trouvé que des matériaux hautement périssables y étaient préservés, que des lames de rasoir émoussées retrouvaient leurs bords tranchants après y avoir passé la nuit, et ainsi de suite. Beaucoup en ont conclu que la forme pyramidale même en était responsable. Elle changeait d'une manière ou d'une autre les processus physiques, chimiques et biologiques qui avaient lieu à l'intérieur de cette forme. Ces expériences ont mené au phénomène connu sous le nom de « pouvoir de la pyramide ». Vous pouviez ressentir le pouvoir des pyramides égyptiennes quand vous vous trouviez à l'intérieur ou à l'extérieur, car leurs configurations sont proportionnellement harmonieuses. Les pyramides sont proportionnées harmonieusement afin d'agir, de fonctionner de la même manière qu'une serre, c'est-à-dire attirer et retenir certaines énergies. Dans le cas des pyramides égyptiennes, cela devrait être appelé l'effet bleu. Dans le cas d'un effet de serre, c'est la rétention des rayons du soleil à la surface de la Terre, causée par le dioxyde de carbone contenu dans l'atmosphère, qui laisse passer les radiations à ondes courtes, mais absorbe les radiations à ondes longues émises par la Terre. Dans le cas de l'effet bleu, les bâtiments retiennent l'énergie orgone. L'orgone vient de l'espace. C'est ce qui fait briller les étoiles et rend le ciel bleu. Merci d'avoir écouté ce podcast. Pour plus d'informations, veuillez consulter les livres « L'architecture métaphysique des anciens Égyptiens » ainsi que « Les pyramides d'Égypte revisitées », tous deux de Mustapha Gadala.